χρώμεθα γάρ πολιτεία ουζηλούσι τους των πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αυτοί όντες τη συν ημιμούμενη εταίρους. Και όνομα μεν διατομή εσολίγους, αλλές πλείον εσυχήν δημοκρατία κέκλειται, μέτες τη δε κατά μεν τους νόμους προς τα ίδια διάφορα, πάση το ίσον, κατά δε την αξίωσιν, ως έκαστος εν το ευδοκιμή, ούκ από μέρους το πλέον εστα κοινά, ή απαρετής προτιμάται, ούδαυ κατά παινίαν έχων δε τη αγαθόν δράσε την πόλην.
Moi, j'aimerais bien savoir comment un jeune homme, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, peut lire Thucydide. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut y trouver de si passionnant, Charles Ratt?
Tout ce qui est raconté, en réalité, c'est passionnant, ça se lit comme un roman. Et pour une raison très simple, c'est que les ingrédients qui suscitent d'ordinaire la fascination d'un public sont présents déjà dans ce récit, où sont narrés des faits d'une extrême violence, cruauté, contrastant avec la façon extrêmement intelligente dont ces faits sont racontés. Enfin, ce contraste provoque d'emblée un intérêt certain. Des épisodes nombreux, qu'on appelle les antilogies, par exemple au livre 3, les antilogies concernant le sort des Platéens ou bien des Mytiléniens, où on voit deux orateurs s'affronter et délibérer à travers une espèce de joute verbale sur le sort qu'on va réserver aux habitants d'une ville qui a fait défection puis qu'on a reprise. Est-ce qu'il faut tous les passer par le fil de l'épée ou simplement la classe dominante et garder la vie sauve au peuple? Que faut-il faire des femmes et des enfants, etc. Enfin, c'est vraiment des débats
cruels.
Si ça, c'est pas du suspense pendant 10 pages où on entend les orateurs s'affronter sur, et on ne sait pas quel sort va leur être réservé à la fin, ça capte vraiment l'attention. Et ce qui est frappant chez Thucydide, c'est le contraste entre la narration de faits aussi brutalement violents, puisque dans plus d'un cas, la population est effectivement exécutée, avec la finesse d'analyse et la finesse dans la restitution des discours des principaux orateurs. Les arguments sont extrêmement fouillés, développés, il y a une grande précision d'analyse, une grande précision de réflexion. On y est, on se prend d'intérêt pour le sort de cette population de la ville de Platée, pour le sort des Mytiléniens, et on suit au cours des discours l'argumentation de chacun des orateurs en se demandant quel va être le jugement de l'assemblée qui les écoute. Enfin, c'est extrêmement terrifiant et passionnant.
Une vie, une œuvre. Thucydide.
Livre 1. Thucydide d'Athènes a raconté comment se déroula la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens. Il s'était mis au travail dès les premiers symptômes de cette guerre, et il avait prévu qu'elle prendrait de grandes proportions et une portée passant celle des précédentes. Il pouvait le conjecturer parce que les deux groupes étaient en l'abordant dans le plein épanouissement de toutes leurs forces. Et d'autre part, il voyait le reste du monde grec se joindre à chaque camp, aussitôt ou en projet. Ce fut bien la plus grande crise qui émut la Grèce et une fraction du monde barbare. Elle gagna, pour ainsi dire, la majeure partie de l'humanité.
Thucydide, historien de la guerre du Péloponnèse, une émission de Christine Goémé réalisée par François Connac. Thucydide n'a jamais cessé d'être d'actualité. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on redécouvre les textes grecs au XVIe siècle...
Monique, très bien.
Thucydide, aussitôt qui a été traduit par Lorenzo Valla, magnifique traduction à laquelle on se réfère encore aujourd'hui en latin, eh bien Thucydide est lu par les humanistes et Hobbes, comme vous le savez, s'en inspire. Et ce n'est jamais que le début d'une longue tradition. Nous aimons, nous les hellénistes, à évoquer Thibaudet qui avait son Thucydide dans sa musette pendant la guerre de 14-18, ainsi que Montaigne et Virgile, et qui nous a laissé un merveilleux petit ouvrage qui s'appelle « La campagne avec Thucydide » et qui lui permettait, en pleine Première Guerre mondiale, de retrouver un certain nombre de catégories d'analyse que Thucydide avait déjà découvertes. Passons à la période de la guerre froide, le nombre d'ouvrages qui ont été publiés sur l'affrontement entre les empires, empire terrestre et évidemment tout le monde pensait à l'URSS, et empire américain, eh bien Thucydide était un guide de lecture pour ce type d'affrontement. Nous sommes sortis de la guerre froide et récemment encore, je trouvais dans la bibliothèque le livre d'un de nos fameux anthropologues, livre qui nous vient bien sûr d'outre-Atlantique, mais Marshall Salins, qui a bien 80 ans, qui est vraiment l'une des grandes personnalités de l'anthropologie contemporaine, a écrit tout à fait dernièrement une Apology to Thucydides, c'est-à-dire qu'il prend encore Thucydide comme référence pour montrer qu'il ne faut surtout pas opposer l'anthropologie et l'histoire, que Thucydide lui-même, dans son récit de la guerre du Péloponnèse, s'est trouvé affronté à cette question, quel est le rôle des peuples et quel est le rôle des chefs d'État dans la conduite, ou des chefs militaires, dans la conduite d'une guerre. Donc on ne sort pas de l'actualité pour Thucydide, je dirais c'est un maître à penser, c'est un maître à réfléchir.
Livre 1. En ce qui concerne les actes qui prirent place au cours de la guerre, je n'ai pas cru devoir, pour les raconter, me fier aux informations du premier venu, non plus qu'à mon avis personnel. Ou bien j'y ai assisté moi-même, ou bien j'ai enquêté sur chacun auprès d'autrui, avec toute l'exactitude possible. J'avais d'ailleurs de la peine à les établir, car les témoins de chaque fait en présentaient des versions qui variaient, selon leur sympathie à l'égard des uns ou des autres, et selon leur mémoire. À l'audition, l'absence de merveilleux dans les faits rapportés paraîtra sans doute en diminuer le charme. Mais si l'on veut voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, à l'avenir, en vertu du caractère humain qui est le leur, présenteront des similitudes ou des analogies, qu'alors on les juge utiles, et cela suffira. Ils constituent un trésor pour toujours, plutôt qu'une production d'apparat pour un auditoire du moment.
Thucydide, contrairement à Hérodote, Hérodote qui est l'historien qui l'a précédé, qui est de la génération antérieure, et qui évidemment a eu un regain d'actualité lui aussi, au moment où l'ethnologie et l'anthropologie se sont développées dans nos pays occidentaux. Parce que Hérodote raconte le grand affrontement entre les cités grecques et l'Empire barbare, par excellence, c'est-à-dire l'Empire du grand roi, la Perse. Et il montre dans son histoire cette merveille de la résistance des cités grecques qui ont résisté à ces campagnes répétées en 490 avant Jésus-Christ, 480 avant Jésus-Christ, du grand roi contre la Grèce. Bien, évidemment, il évoque les peuples auxquels s'est attaqué le grand roi et son œuvre est un répertoire non seulement d'anecdotes mais aussi d'analyses sur les mœurs, la manière dont vivent, la religion des divers peuples qui soit faisaient partie de l'empire du grand roi, soit ont été traversés par les troupes du grand roi. Thucydide, lui, c'est exactement le contraire. 30 ans ou 35 ans plus tard, il est la génération qui suit, il est né dans les années 460 à peu près. Il raconte sa guerre, et sa guerre évidemment est tragique, parce qu'au lieu d'être la lutte courageuse des petites cités grecques contre un envahisseur beaucoup plus fort, et beaucoup, avec des troupes beaucoup plus nombreuses qu'elles ne pouvaient en aligner, c'est une lutte fratricide entre deux cités grecques, Sparte et Athènes. Sparte étant à la tête d'une ligue continentale et Athènes étant à la tête d'un empire, d'où cette réinterprétation possible dans l'histoire contemporaine. Et Thucydide se centre sur sa guerre en éliminant le plus possible les anecdotes, en essayant de dégager les raisons de l'affrontement de ces deux grandes cités et en affirmant d'emblée que son récit, eh bien, il le fait avec l'espoir que cela pourra fournir des éléments d'interprétation pour ceux qui le liront dans les temps à venir.
Pour toujours.
Pour toujours. Et c'est le fameux Kthema S.A.E.I. Que chaque amateur de Thucydide ou lecteur de Thucydide ne manque pas d'évoquer. Mon récit, eh bien, si cela peut servir à interpréter, étant donné que le genre humain reste quand même fondamentalement le même, nous dit Thucydide, si ça peut servir à y voir clair dans les événements à venir, c'est son principal but. Cela dit, quelqu'un de la génération du miracle, ne parlons pas de miracle, mais disons des lumières en Grèce, n'est-ce pas? C'est ce que souvent on a comparé le siècle de Périclès, dont Thucydide est un grand représentant, au siècle des lumières. Parce que c'est une époque où, justement, après ce succès des guerres médiques, les Grecs ont cru que tout leur était permis. Et partout, on a cherché à faire progresser toutes sortes de sciences, toutes sortes de savoirs, la médecine, bien sûr, l'art oratoire, l'éloquence, c'est l'époque des sophistes. Et Thucydide s'est inspiré, a été nourri par ce mouvement intellectuel, et il est assez courant de dire qu'il applique à l'analyse de ce phénomène, la guerre entre Athènes et Sparte, des catégories d'analyse qui sont les mêmes que les catégories auquel recourt un médecin devant un malade cherchant à analyser une maladie. Donc Thucydide, comme les médecins, cherche à analyser l'élément, la cause déclenchante, qu'est-ce qui a fait que finalement Athènes et Sparte, en effet, sont entrés en guerre. Et puis, voilà les facteurs préparatoires. Alors il remonte 30 ans plus tôt pour évoquer les divers affrontements qu'il y avait eu entre les alliés d'Athènes et les alliés de Sparte, donc sur telle ou telle limite ou frange de l'Empire. Et puis il aboutit à la cause la plus vraie. Et la cause la plus vraie pour Thucydide, c'est la crainte qu'a créée à Sparte la croissance de l'Empire athénien. Et ça, c'est évidemment une analyse avec ses divers niveaux de causalité qui nous renvoie aux recherches médicales du temps, indéniablement, mais c'est une analyse qui a fait la gloire de Thucydide pour tous ses successeurs dans cette belle science humaine qu'est l'histoire.
Cette histoire du conflit entre Athènes et Sparte,
Denis Knopfler,
nous la connaissons essentiellement à travers son témoignage, ou des témoignages plus tardifs, mais qui ne pèsent pas très lourd face à ce témoin oculaire qu'il a été. Il reste qu'il y a d'autres témoignages dont on dira peut-être quelques mots dans un instant, c'est-à-dire précisément les documents, les inscriptions, qui sont parfois très importantes et qui n'est pas toujours facile de concilier avec le récit de Thucydide. Et il y a le témoignage qui est incontournable également de l'archéologie au sens le plus large, c'est-à-dire d'abord les monuments d'Athènes. Les monuments d'Athènes dont, marquons-le bien d'emblée, Thucydide dit très peu de choses, ou pratiquement rien. L'acropole n'est pas évoquée dans l'œuvre de Thucydide. Il y a une mention au passage, et pour des raisons purement financières, de la construction, parce qu'elle a coûté très cher, des propylées, c'est-à-dire de l'entrée monumentale de l'acropole. Pas un mot du Parthénon. Et qui pourtant aurait pu faire l'objet d'une mention éventuellement, ne serait-ce que pour des raisons idéologiques ou financières, dans le développement que Thucydide fait des causes de la guerre du Péloponnèse, puisque la construction du Parthénon, rappelons-le, est antérieure d'une quinzaine d'années à l'ouverture des hostilités, pas un mot non plus d'autres édifices que nous admirons, l'Erechtheion, cette splendide construction qui a été réalisée pendant la guerre du Péloponnèse. Il l'a vu construire, au moins pour ça, dans sa première partie, puisqu'ensuite il a été exilé à partir de 424. Pas un mot non plus à la fin de la guerre, de la construction du temple d'Athéna Niké, d'Athéna de la Victoire. Un monument, un édifice, on ne peut plus idéologique. et qui aurait pu avoir sa place éventuellement dans son œuvre. Tout cela, il le tient délibérément à l'écart. Il n'est pas aveugle. Il est tout à fait capable de décrire un édifice. Il l'a prouvé en décrivant minutieusement l'enceinte d'Athènes. Donc, ce n'est pas une incapacité de sa part. Il y a un choix délibéré, se concentrer sur le politique et le diplomatique, le militaire, faire une histoire politique de la guerre du Péloponnèse.
Il était lui-même tout de même militaire, donc on peut comprendre en effet ce choix de
Oui, militaire, il faut faire attention. Quand on parle de la Grèce antique, personne n'est militaire, personne n'est prêtre, personne n'est homme politique. On est tous là à la fois. Hein. Faire une carrière politique en Grèce, à Athènes en particulier, mais c'est vrai du reste de la Grèce de manière très générale, c'est passer constamment d'un domaine à l'autre à travers les magistratures. Athènes, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, et plus tard encore, est gouvernée par 10 stratèges. Vous voyez que le mot stratège évoque à nos oreilles quelque chose de militaire. Mais ces stratèges ont un rôle civil très important. Ce sont véritablement des hommes politiques et qui, le cas échéant, peuvent aussi accomplir des rites de caractère religieux. Il a eu une expérience de la guerre. Hein. C'est irremplaçable, sans doute, pour faire un récit d'une telle densité. Une expérience d'ailleurs malheureuse, puisqu'il a été vaincu comme stratège par un Spartiate pour lequel il avait la plus grande admiration. C'est beau et bon à dire, on peut y revenir sur cette objectivité de Thucydide. Ça arrive en 424, donc 6 ou 7 ans après le début de la guerre, dans un théâtre d'opération qui a été extrêmement important, c'est le nord de la Grèce, ne l'oublions pas. La guerre du Péloponnèse se joue au moins autant dans le nord de la Grèce et finalement en Sicile. Hein, c'est ce qui fait son caractère très général. Donc il est vaincu là et il en subit les conséquences politiques.
Il est exilé,
ce qui a été peut-être notre chance, parce que cet exil... Ça va précisément lui permettre, dans une certaine quiétude, d'écrire, d'abord de s'informer. Et il l'a probablement fait, selon une hypothèse récente que je trouve séduisante, il a probablement passé une bonne partie de son exil en un endroit stratégique, c'est la cité de Corinthe, sur l'isthme de Corinthe. Et il était à égale distance des deux puissances hostiles, Corinthe clairement du côté de Sparte, mais un véritable observatoire pour comprendre l'évolution de la guerre pendant 20 ans d'exil.
Thucydide, en effet, a été stratège et il n'a pas pu empêcher la prise d'Amphipolis. Alors là, je ne sais pas si les auditeurs ont une carte de Grèce en tête. Amphipolis, c'est au nord de la Grèce, c'est une colonie athénienne qui est très importante pour les ressources en bois d'Athènes, pour la flotte en particulier. Donc cette colonie d'Amphipolis a été perdue alors que Thucydide était stratège. Je m'explique, lorsque les choses se passent, il y a déjà plusieurs années de guerre qui se sont écoulées et les Spartiates ont compris, sous l'impulsion d'un chef tout à fait intelligent, et Thucydide nous donne un portrait de ce chef intelligent, qui est Brasidas, les Spartiates ont très bien compris qu'il leur fallait combattre Athènes là où elle était vulnérable, c'est-à-dire dans son empire. Et Brasidas, ce chef spartiate, va conduire ce qu'il fera passer pour une expédition de libération des cités grecques. Et ça, c'est à la fois une idée politiquement tout à fait intelligente.
C'est un coup de génie.
Mais c'était évidemment très douloureux pour un Athénien de devoir rendre compte de ce fait. Car Athènes avait libéré la Grèce du barbare, mais maintenant Sparte entend libérer les cités grecques de l'Empire
d'Athènes,
de l'oppression d'Athènes. Ce qui est un renversement évidemment douloureux. Or, Brasidas a été en effet accueilli comme un libérateur dans un certain nombre de cités de l'Empire. Et Thucydide qui est parvenu à sauver la petite cité d'Eion qui est proche d'Amphipolis n'a pas pu sauver Amphipolis. Donc le peuple athénien, démocratie directe, le peuple dont Thucydide nous dit qu'en effet il est parfois très émotif et vote en fonction de ses émotions du moment, sans penser aux conséquences lointaines. Il y a toujours une opposition chez Thucydide entre cette émotion qui fait agir dans l'instant et la réflexion qui devrait permettre d'envisager les conséquences avant l'action.
C'est un problème d'une cruelle
permanent,
actualité.
Oui, permanent. Et donc Thucydide a été exilé à la suite de ce relatif échec, qu'il décrit avec la même objectivité, la même discrétion, sans aucun effort pour se défendre personnellement, au livre 4 de ses histoires. Et donc, étant exilé, comme il nous le dit dans ce qu'on appelle la seconde préface, c'est-à-dire que la guerre du Péloponnèse, comme peut-être j'aurais dû le dire au début, a duré plus de 30 ans, et il y a eu trois grandes périodes dans ce conflit. De 431 à 421, c'est ce qu'on appelle finement la guerre de 10 ans, et qui se termine par la paix de Nicias. Thucydide est exilé à partir de 424. Donc, toute la suite de la guerre du Péloponnèse, il a pu la vivre, comme il le dit lorsque la guerre reprend, c'est-à-dire dans ce qu'il raconte à partir du milieu du livre 5, et ce sont les événements qui préludent à la campagne de Sicile qui va être si tragique pour Athènes, eh bien, Thucydide explique que finalement, il a eu la liberté de prendre ses renseignements aussi bien auprès des Athéniens qu'il croisait dans d'autres parties de l'Empire que des Spartiates et de leurs alliés. Donc, son souci d'objectivité et son souci de rendre compte des faits avec impartialité a été indiscutablement facilité par cet exil. Et pour nous, nous pourrions dire que c'est une chance.
Quelle chance, oui. En effet.
Livre 3. Après une journée d'intervalle, le combat reprit, et le peuple l'emporta grâce à la force de ses positions et par la supériorité du nombre. D'autant que les femmes le secondaient hardiment, lançant des tuiles du haut des maisons et dominant leur naturel pour affronter le tumulte. Quand leur déroute fut survenue, vers le soir, les aristocrates craignirent que du premier élan le peuple attaquant l'arsenal maritime ne l'enlevât et ne les massacrât. Ils mirent alors le feu aux maisons autour de l'agora, y compris les immeubles de rapport, pour supprimer tout accès, sans épargner leurs biens ni ceux d'autrui. De sorte que beaucoup de marchandises brûlèrent, et que la ville courut le risque d'être entièrement détruite si un vent portant vers elle s'était mis à souffler sur l'incendie.
Quand même souligner l'effort d'objectivité de Thucydide. Et cet effort passe d'abord par son souci de l'information. Il est allé chercher l'information très loin de chez lui, il a interrogé une foule d'acteurs. C'est peut-être le côté, un des côtés les plus admirables de cette œuvre.
Le côté correspondant de guerre.
Correspondant de guerre, il construit, il construit son histoire à partir d'une information qu'il est le premier à réunir. Et ça, c'est une opération extrêmement difficile pour un historien, parce que le plus souvent, un historien, il construit quelque chose sur ce qui a déjà été partiellement rédigé. C'est ce que d'ailleurs Thucydide a fait dans un cas, et ça ne lui a pas particulièrement réussi, à vrai dire. Vous savez, il fait cette histoire des 50 ans qui séparent les guerres médiques de la guerre du Péloponnèse pour montrer, conformément à son explication, que c'est le développement d'Athènes pendant ces 50 années, pendant ce qu'on appelle de façon un peu pédante la Pentekonta Essi, cet accroissement d'Athènes qui crée la crainte des autres Grecs et donc qui est la cause la plus vraie, la plus profonde de la guerre du Péloponnèse. Or, pour démontrer cela, il fait le récit de ces 50 années qu'il n'a pas vécu directement, sinon vers la fin. Et il s'inspire en particulier d'un historien qui avait déjà fait cela, plus ou moins bien. Il le critique, il dit que ça n'est pas satisfaisant. Et ce qu'il fait à la place, n'est pas bien meilleur, à vrai dire, parce que l'un, justement, il va très vite, sa chronologie est vague, sinon confuse, et elle suscite beaucoup de problèmes aux historiens. Les choses changent considérablement avec la guerre elle-même. Là, il la suit de très près, année après année, il y a une chronologie.
Oui, enfin, il en est le témoin direct.
Et donc, alors, il est clair qu'il a pu se tromper, mais qu'il ait déformé sciemment la vérité, ce souci de donner la parole à l'autre, à l'adversaire, pour lequel, encore une fois, j'y reviens, il a parfois de l'admiration, en tout cas pour certaines des figures dirigeantes, le Brasidas, le Spartiate, Hermocrate de Syracuse, ce sont des personnalités pour lesquelles il éprouve beaucoup d'admiration. Il est clair qu'il est, disons, non pas sans réserve, mais il est favorable à Périclès, donc il est assez négatif sur bien des successeurs sur lesquels il porte un jugement plutôt sévère. Mais je ne crois pas qu'il soit véritablement trompé par son idéologie, car c'est d'une certaine manière un modéré, Thucydide. Hein. Le régime qu'il préfère, il le dit dans le dernier livre, celui pour lequel il avait une véritable admiration, parce qu'il avait vu les excès de la démocratie aussi. Il avait vu les excès, naturellement, il les savait, de l'oligarchie spartiate, voire de la tyrannie. C'est un régime mixte.
Thucydide lui-même fait partie des familles les plus riches d'Athènes, n'est-ce pas? C'est un homme qui a de l'argent.
On peut le penser.
Des mines d'or, je crois, c'est ça.
Voilà, Thucydide dit très peu de choses de lui, et au fond, nous ne savons sur Thucydide que le peu qu'il nous en dit dans son récit, dans son histoire. Son nom, Thucydide, fils de Leros, laisse à penser qu'il était lié à des grandes familles de Thrace, enfin du nord de la Grèce, et qu'en effet, il semble qu'en effet, sa famille ait exploité des mines de cette région. Donc, il a eu certainement l'éducation d'un jeune homme de très bonne famille. Il a été formé par les sophistes indiscutablement, et on le sent dans son style, dans sa phrase. Il a beaucoup appris des subtiles divisions et nuances de vocabulaire sur lesquelles jouaient les sophistes. Mais il s'en sert, lui, pour analyser les situations politiques. Donc, indiscutablement, ça n'était pas un démocrate d'extrême gauche. Et ce qu'il admire chez Périclès, il nous le dit après l'oraison funèbre, il consacre tout un développement à la personnalité de Périclès, et il admire chez Périclès d'avoir été un chef démocrate qui n'avait rien d'un démagogue, car il ne suivait pas le peuple, mais il guidait le peuple. Et il dit qu'il était suffisamment honnête, c'est-à-dire qu'il ne s'enrichissait pas, mais qu'au contraire, il cherchait toujours l'intérêt commun. Donc, cette grandeur de Périclès, qui faisait de lui, au fond, un aristocrate à la tête d'une démocratie, mais un aristocrate au sens noble du terme, n'est-ce pas, le meilleur parmi les meilleurs, il lui rend un très vibrant hommage. Et il attribue les malheurs d'Athènes dans la suite de la guerre au fait que les successeurs de Périclès n'ont eu ni la même honnêteté, ni le même courage, car Thucydide déjà était parfaitement conscient que pour s'opposer au peuple, il faut un certain courage, que d'ailleurs Périclès a payé parfois en n'étant pas réélu pendant un an, par exemple.
Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας, πλούτοτε έργου μάλλον καιρό η λόγου κάμπο χρώμεθα και το πένεστε ούχ ομολογήν τίνιες χρόν.
Livre 2. Discours de Périclès. Nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Nous employons la richesse de préférence pour agir avec convenance, non pour parler avec arrogance. Et quant à la pauvreté, l'avouer tout haut n'est jamais une honte. C'en est une plutôt de ne pas s'employer en fait à en sortir. Une même personne peut à la fois s'occuper de ses affaires et de celles de l'État. De même, pour la générosité, nous sommes à l'opposé du grand nombre. Ce ne sont pas les services qu'on nous rend, mais nos propres bienfaits qui sont à l'origine de nos amitiés. Or, le bienfaiteur est un ami plus sûr. Il veut, par sa bienveillance envers son obligé, perpétuer la dette de reconnaissance ainsi créée. Celui qui est redevable, lui, a plus de mollesse. Il sait que sa générosité, au lieu de lui valoir de la reconnaissance, acquittera seulement une dette. Et seuls, nous aidons franchement autrui en suivant moins un calcul d'intérêt que la confiance propre à la liberté.
Depuis 15 ans, au moment où la guerre éclate, en 431, Athènes, elle est symbolisée par un homme.
Périclès,
ça. Oui, Périclès. Alors, il est tout à fait étonnant de voir chez Thucydide une exonération totale des responsabilités de Périclès dans l'affaire.
Patrice Brun.
Et c'est là où, si vous voulez, il est intéressant et même utile, voire nécessaire, de regarder d'autres sources à notre disposition. Je pense, alors évidemment, ce sont des fragments, ils ne sont pas faciles à lire, ils ne sont pas traduits en français, donc vous voyez, c'est jamais commode d'aller les voir. Mais on a des fragments de poètes, d'un poète comique qui s'appelle Cratinos, d'un autre qui s'appelle Platon, le comique, hein, c'est pas à distinguer évidemment du philosophe, qui indique très, très nettement que pour les Athéniens du début de la guerre du Péloponnèse, Périclès avait une grande part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre par son intransigeance. Voyez, et dans cette, évidemment que l'impérialisme athénien et que finalement tous les Athéniens bénéficiaient de cet impérialisme, on est bien d'accord, bien sûr. Mais il y a chez Thucydide cette volonté en fait de d'exonérer totalement Périclès de toute forme de responsabilité. Et ça, on peut considérer que effectivement on a le droit, je pense, légitime de le critiquer.
Alors, allons-y, quel est le Périclès que vous nous proposez de regarder, Patrice Brun, dans la mesure où, effectivement, vous avez l'air de dire qu'on est un peu victime de la campagne idéologique menée par Thucydide en faveur et d'Athènes et de Périclès, et de l'Athènes de Périclès. Quels sont, les textes, les pensées qui peuvent venir fracturer un peu cette image assez agiographique de Périclès qu'on peut avoir?
Il y a les poètes comiques, il y a quand même quelques propos d'Aristophane, hein, dans les Acarniens, si mes souvenirs sont bons, donc les poètes comiques que j'ai cités, et il y a également la vie de Périclès, écrite alors bien plus tard par Plutarque, au IIe siècle de notre ère, mais qui s'appuie sur des travaux, enfin sur des textes aujourd'hui disparus, et qui offre de Périclès une vision, je dirais, pas fondamentalement différente. Ma position, elle est que dans la géographie proposée par Thucydide, il y a une part, si vous voulez, de sympathie d'un aristocrate pour un autre aristocrate, et peut-être plus encore, ce regret a posteriori de l'apparition à la tête de la cité athénienne de gens qui ne sont plus des aristocrates, de vrais roturiers. On a, si vous voulez, un peu, avec Thucydide, le sentiment que certains nobles ont pu avoir, vous voyez, au moment au XVIIIe siècle, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, où en quelque sorte, le pouvoir politique, cet ascendant que l'aristocratie avait sur l'ensemble du peuple, a tendance à disparaître. Donc la version que je proposerai de Périclès, c'est un homme qui a des qualités extraordinaires. Enfin, je crois qu'il ne faut pas le nier, je ne veux pas le nier. Il avait notamment, probablement, une ascendance, je dirais, morale très forte. Hein. Et cette ascendance, qui était due évidemment à ses qualités personnelles, s'appuyait aussi sur tout un passé familial. C'est-à-dire que Périclès était le descendant de celui qu'on peut considérer comme le fondateur de la démocratie athénienne. Il était le petit-neveu de Clisthène. Oui. Il était aussi le fils de Xanthippos. Xanthippos qui a largement participé à la victoire athénienne durant la Seconde Guerre médique. Et c'est notamment lui qui s'est emparé de la ville de Sestos en 479. Donc il y a, si vous voulez, Périclès s'appuie sur ses qualités propres, mais aussi sur, en quelque sorte, tout le poids que lui donnent ses ancêtres. Je crois que ça, évidemment, cette légitimité, parce que pour les Athéniens, pour les Grecs, Cette ancienneté est une légitimité. Les successeurs ne l'avaient plus. Par conséquent, pour s'imposer sur le plan politique à l'Assemblée d'Athènes, quelqu'un comme Cléon ne pouvait pas exciper d'ancêtre glorieux. Et par conséquent, il est sûr qu'il devait manier une autre rhétorique, une rhétorique que Thucydide nous décrit comme plus violente. D'autres nous disent, notamment Aristote dans la rhétorique, que les successeurs de Périclès utilisaient, je dirais, des propos plus directs, des situations imagées. Indiscutablement, il n'avait plus cette légitimité liée aux ancêtres. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est la caractéristique de Périclès. C'est qu'en quelque sorte, il est un personnage qui lui-même a une autorité naturelle. Et qu'en plus, cette autorité naturelle est accrue, si vous voulez. Voyez, elle est presque, je dirais, exagérée par tout ce recul familial qui lui donnait, si vous voulez, une aura exceptionnelle.
Que nous avons ce livre, eh bien, c'est un livre en 8 livres avec un livre 1,
Monique Prédé,
qui nous retrace, avec ce souci d'expliquer que j'évoquais tout à l'heure, qui nous retrace tout ce qui a préludé à la guerre. Et car Thucydide entend démontrer que le conflit entre Sparte et Athènes durant cette guerre du Péloponnèse a été la conflagration la plus importante qu'ait jamais connue le monde habité. Et il part d'Homère pour passer en revue les divers conflits qui ont eu lieu et nous montrer que vraiment là, c'est pratiquement l'ensemble de la terre habitée qui a été touchée par ce combat opposant deux empires. Bien. Et le récit de la guerre proprement dit ne commence qu'avec le livre 2.
Sur, évidemment,
une attaque célèbre. De Thèbes, célèbre, contre Platée, la cité de Platée, qui était la seule cité béotienne à ne pas avoir pris le parti du barbare, du Mède, pendant la guerre précédente. Donc c'est un crime contre l'hellénisme, en quelque sorte, cette attaque de Platée par les Thébains. Mais le livre 2, attention, qui s'ouvre sur Platée, se clôt sur la mort de Périclès, les derniers discours de Périclès après l'oraison funèbre, l'oraison funèbre des premiers morts qui est prononcée à la suite des obsèques des morts de la première année de guerre.
Alors c'est presque un discours générique. Enfin. On a l'impression que là, c'est l'exemple absolu du discours funèbre.
C'est en effet l'exemple du discours funèbre, mais c'est un discours funèbre de célébration qui reste un discours politique. Et c'est un éloge du régime athénien, d'un régime tel que le conçoivent les Grecs, c'est-à-dire que c'est à la fois un éloge de la constitution et de la démocratie directe et du dévouement de chacun qui est partie prenante dans la décision, donc du dévouement de chacun à sa patrie, mais c'est aussi une évocation du mode de vie démocratique. Et c'est là qu'on trouve ces formules admirables. Nous ne pensons pas que la parole soit un obstacle à l'action, ce qui est évidemment une critique implicite de Sparte, où l'on parle très peu. Nous pensons au contraire que la parole est faite pour éclairer l'action. Nous aimons à nous récréer notre esprit dans des fêtes, au théâtre, etc. Philosophoumène, nous aimons la philosophie, ou plus exactement la réflexion, car le terme philosophie n'est pas encore entré vraiment dans la langue. Donc c'est un éloge de l'ensemble du mode de vie athénien. Et si l'on compare au brûlot qui émanait des oligarques qui critiquaient la démocratie athénienne, on voit tout l'éclat et la grandeur de ce discours, car il y avait de nombreux pamphlets qui expliquaient que Athènes n'était absolument pas une cité sérieuse, qu'à Athènes il y avait trois fois plus de jours fériés et de jours de fête qu'ailleurs, que les Athéniens, oui, passaient mais plus d'un tiers de l'année à festoyer pour célébrer tel ou tel dieu. Et ce qui est mis en relief dans ce discours, c'est l'harmonie de ce style de vie démocratique avec les devoirs que
et
ça
rigueur
implique,
en même voilà, temps exactement. Liés, quoi. Et ça, c'est vraiment voilà. Magnifique.
Et le jugement qui suit, alors le jugement de Thucydide, qui à ce moment-là reprend la parole en son propre nom sur Périclès, est évidemment, je dirais, la suite tout à fait naturelle de ce magnifique discours, où Thucydide, prenant à ce moment-là la parole en son propre nom pour dire « Ce régime, eh bien, c'est aussi l'œuvre d'un homme. »
Alors, livre 2, donc, Platée.
Livre 2, Platée, livre 2, Oraison funèbre, donc moment d'extase, et livre 2, malheureusement aussi, La peste.
Του δε θέρους ευθύς αρχομένου Πελοποννήσι και εξήμαχη τα δύο μέρη, ώσπερ και το πρώτον εσέβαλον εις την Αττικήν, γήτο δε αρχίδαμος ο Ζευξιδάμου, λακεδαιμονίων βασιλεύς, και καθεζόμενοι εδίουν την γήν.
Livre 2.
Και όντων αυτών,
les Péloponnésiens et leurs alliés n'étaient encore que depuis peu de jours en Attique quand l'épidémie se mit à sévir parmi les Athéniens. Pour moi, je dirais comment cette maladie se présentait. Les signes à observer pour pouvoir le mieux, si jamais elle se reproduisait, profiter d'un savoir préalable et n'être pas devant l'inconnu. Voilà ce que j'exposerai, après avoir en personne souffert du mal et avoir vu en personne d'autres gens atteints. Cette année-là, de l'aveu unanime, se trouvait en fait privilégiée par la rareté des autres indispositions. Mais les affections antérieures, quand il y en avait, finirent toutes par tourner à ce mal. En général, pourtant, rien ne lui fournissait de point de départ. Il vous prenait soudainement en pleine santé. On avait tout d'abord de fortes sensations de chaud à la tête, les yeux étaient rouges et enflammés, au-dedans, le pharynx et la langue étaient à vif. Le souffle sortait irrégulier et fétide. Puis survenait à la suite de ces premiers symptômes l'éternuement et l'enrouement. Alors, en peu de temps, le mal descendait sur la poitrine, avec accompagnement de fortes toux. Lorsqu'il se fixait sur le cœur, celui-ci en était retourné, et il survenait des évacuations de bile sous toutes les formes pour lesquelles les médecins ont des noms, cela avec des malaises terribles. À cela s'ajoutait de façon continue l'impossibilité de trouver le repos et l'insomnie. Le corps, pendant la période active de la maladie, ne s'épuisait pas. Il résistait même de façon surprenante aux souffrances. Aussi, deux cas se produisaient-ils. Ou bien, et c'était le cas le plus fréquent, on mourait au bout de 8 ou de 6 jours sous l'effet de ce feu intérieur sans avoir perdu toutes ses forces, ou bien, si l'on réchappait, la maladie descendait sur l'intestin. De fortes ulcérations s'y produisaient en même temps que s'installait la diarrhée liquide. Et, en général, on mourait plus tard de l'épuisement qui en résultait.
Ce qui intéresse Thucydide, là aussi, ça ne sera pas de faire frissonner son auditoire en évoquant telle ou telle tragédie touchant telle famille, etc. Or, Périclès a perdu deux de ses fils. Bon. Donc, Thucydide lui-même a été atteint par la peste. L'idée géniale de Périclès ayant été de transformer Athènes en île, en quelque sorte, hein, mais avec une épidémie comme la peste, évidemment, cette idée...
D'ailleurs, Périclès va mourir.
Absolument. Il y a eu énormément de morts, mais ce qui a intéressé aussi Thucydide, et là aussi, c'est toujours en s'élevant au-delà de l'événement, je dirais, dans sa nudité, nous montrer les conséquences de ce type de catastrophe sur l'état des esprits, les mentalités. C'est à ce moment-là, évidemment, au moment de la peste, que Périclès voit la confiance envers sa politique disparaître, bien sûr. Il va d'ailleurs, en effet, périr de cette peste lui-même. Et Thucydide, lui, cherche à analyser. C'est ça qui est vraiment est toujours extraordinairement fascinant quand on lit aujourd'hui encore son œuvre. C'est que au lieu de rechercher le pathétique, qui, je dirais, va de soi dans cette évocation, il y a non seulement beaucoup de pudeur, mais surtout un effort pour analyser les conséquences sur ce qui reste au cœur de ses préoccupations, le récit de sa guerre. Alors, évidemment, cette peste a des conséquences catastrophiques sur l'état des esprits à Athènes, et il faudra ce que nous allons voir avec le livre 3, une série de victoires pour que les Athéniens reprennent courage et pensent même, à certains moments, conduits par l'un des successeurs de Périclès, qui est Cléon, et qui est la bête noire de Thucydide, on le devine, on le devine assez précisément,
absolument,
de par son récit, car c'est ce Cléon qui lui a valu d'être exilé après son échec à Amphipolis. Donc ce Cléon, que nous connaissons très bien par Aristophane aussi, mais Aristophane, c'est le grand comique politique.
Dans les cavaliers. Il y a le personnage de Cléon.
Alors ce personnage de Cléon, c'était un démocrate, mais alors d'extrême gauche. Et ses conflits avec Nicias, le démocrate modéré, ont indiscutablement défrayé la chronique athénienne du temps. Et aussi bien Aristophane que Thucydide ne cessent de vitupérer, avec des termes choisis et sans colère trop apparente chez Thucydide, ce n'est pas le cas chez Cléon, contre ce démagogue qui est prêt aux plus folles promesses pour satisfaire ses concitoyens.
Cléon, chez Thucydide, représente, comme je venais de dire, l'antithèse de Périclès. C'est-à-dire que Cléon, ce que l'on sait de lui, est un personnage qui est tout à fait à l'opposé de Périclès, d'abord par ses origines sociales.
Patrice Brun.
Périclès est un aristocrate issu d'une très grande famille athénienne, comme Thucydide d'ailleurs. Il y a, je dirais, une proximité de classe entre Thucydide et Périclès qui est tout à fait nette. Cléon, lui, est propriétaire d'une tannerie. Alors, n'imaginez pas une seule seconde qu'il tanne les peaux lui-même. Il a bien entendu un atelier dans lequel il fait travailler des esclaves. Donc déjà, il y a une position sociologique. Et puis il y a aussi, une vision de la pratique politique. Périclès était quelqu'un qui avait une très forte ascendance sur le peuple, qu'il marquait à la fois à l'assemblée et sur le champ de bataille. Cléon est avant tout un orateur. Alors, un orateur pas à la manière de Périclès. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un discours, si vous voulez, tel qu'on peut le voir au travers de Thucydide, beaucoup plus direct que Périclès. Il s'adresse finalement beaucoup plus au peuple, je dirais, au sens, les catégories les plus basses socialement de la société athénienne, alors que les discours de Périclès, tels qu'on peut les reconstruire avec le texte de Thucydide, nous montrent qu'il s'adresse en quelque sorte à une Athènes idéale, vous voyez.
Tout de même, ce que Thucydide marque bien dans la différence entre les deux hommes, et je crois que ça c'est quand même une donnée essentielle, c'est que l'un ne plie pas, ne ploie pas sous le joug de l'opinion, alors que l'autre si. C'est-à-dire que Périclès, au fond, guide l'opinion et ne s'y soumet pas, alors que Cléon, en quelque sorte, flatte l'opinion.
Oui, mais là encore, il y a de la part de Thucydide des choix dans sa présentation. Car imaginez que Périclès ait été élu 15 fois de rang stratège, sans qu'à aucun moment il n'ait, comme dirait Thucydide, comme vous venez de le dire vous-même, flatté le peuple, c'est proprement inimaginable. La vision de Thucydide vis-à-vis de Périclès est une image totalement idéalisée. D'ailleurs, on le voit très bien lorsqu'on a d'autres sources. Je pense par exemple à certains passages d'Aristophane ou de Plutarque qui nous montrent un Périclès tout à fait différent, dans lequel il y a de très fortes critiques sur sa politique. Périclès est quelqu'un qui, pour parler comme les hommes politiques à présent, a souvent les mains dans le cambouis. Et de la même manière que Cléon. Mais dire que Cléon, finalement, flatte le peuple alors que Périclès ne le flattait pas, mais ça c'est une chose pour laquelle nous n'avons strictement aucun moyen de confirmer ce propos, sinon les analyses totalement biaisées de Thucydide. Vous voyez, on a un vrai problème. Nous n'avons en gros qu'un texte sur la vie politique athénienne à l'époque du début de la guerre du Péloponnèse, on va dire entre 430 et 410. Nous n'avons qu'un texte, et ce texte, plus on le décortique, et plus on s'aperçoit qu'il y a, allez, je vais lâcher le mot, de la mauvaise foi chez Thucydide, vous voyez. Il y a un parti pris qui le montre systématiquement à dire que Cléon flatte le peuple. Mais dans ce qu'il nous dit, on ne voit pas en quoi il le flatte le peuple. Quand Cléon propose, par exemple, de prendre la direction des opérations pour mener une armée et aller capturer des Spartiates, on ne voit pas en quoi il flatte le peuple. Il prend ses responsabilités. Et hors ça, assez systématiquement, Thucydide soit l'occulte, soit le tourne en ridicule. C'est là-dessus, vous voyez, qu'on peut avoir une vision critique de Thucydide.
qu'il faut prendre Thucydide au pied de la lettre, puisque c'est un principe de la philologie, hein, étudier les choses de très près, ça c'est clair. Quant à lui donner systématiquement raison et penser que c'est la vérité établie, non, sans doute pas. Bien que, le plus souvent, il faut le dire, dans le récit de la guerre du Péloponnèse, qui est d'une densité extraordinaire, on a guère le moyen de le prendre en faute. On peut, au mieux...
Denis Knopfler.
Modifier la perspective ou le compléter précisément grâce à des documents épigraphiques qui sont... ces documents sont nombreux pour, dans l'Athènes, pas seulement Athènes, mais en particulier Athènes, dans cette Athènes impériale qui non seulement prend des décisions d'une très grande portée à la fois pour elle-même et pour ses alliés qui sont devenus des sujets et qui, d'autre part, les expose de façon grandiose et coûteuse sur l'Acropole. Donc Thucydide voyait ces documents. Vous avez par exemple un document qui était extrêmement majestueux, c'était la liste sur des mètres de haut du tribut versé par les alliés à partir de l'année 454. Il y a une espèce de petite révolution qui se fait en 454, 30 ans, 25 ans avant le début de la guerre, où on transfère le trésor de la Lydie qui était dans l'île de Délos, si vous voulez, un endroit un peu central et neutre, d'une certaine manière, on le transporte sur l'Acropole même d'Athènes, pour des raisons de sécurité. Désormais, donc, Athéna, c'est-à-dire les Athéniens, ont la haute main sur ce trésor, et c'est ce qui nous a valu, d'ailleurs, la confection de cette stèle et de ces stèles, qui, de manière systématique, nous donne la liste, année après année, des contributions. Non pas de ce que chaque cité et peuple, ils sont plusieurs centaines, paye, le montant total, mais, si vous voulez, une part, un 60e, qui précisément est destinée à la déesse Athéna. Et c'est pourquoi on grave cela dans le marbre. C'est ce qui va retomber dans la caisse du trésor sacré d'Athéna. Bon, donc ces documents sont, pour l'historien, extrêmement précieux. Ils nous donnent une vue complète de l'Empire athénien, de toutes les cités. Et l'on constate que, fondamentalement, le témoignage de ces documents ne contredit pas celui de Thucydide, qui, dans un discours célèbre de Périclès, au livre 2, où Périclès donne l'état des finances d'Athènes au moment où se déclarent les hostilités pour encourager les Athéniens à soutenir la guerre, leur dit, voilà, dans le trésor de l'Acropole, il y a tant et tant de talents, et il y a aussi le revenu annuel qui est de 600 talents, le revenu annuel de l'Empire. 600 talents, c'est une somme très importante, puisqu'un talent, c'est 25 kilos d'argent. Hein, et ce montant, il n'est pas trop éloigné de celui qu'on peut établir grâce à ces listes. Donc là, on peut dire qu'il y a convergence entre les documents et le texte de Thucydide. Et Thucydide laisse entendre qu'après Périclès, la politique athénienne a changé considérablement, que ses successeurs ont commis des fautes que Périclès n'aurait jamais commise lui-même, qu'il était beaucoup plus prudent, il aurait renoncé à toute entreprise aventureuse, tandis que ses successeurs sont parfois très téméraires, avec aussi quelques succès. Ils sont surtout très durs à l'égard des alliés que l'on pressure, parce que la guerre coûte cher, et il faut constamment trouver des sources de financement pour la guerre. Et alors, précisément, ces textes, et notamment un des plus fameux qui est un décret d'Athènes obligeant les alliés à accepter la monnaie d'Athènes et à renoncer à leur propre monnayage. Donc une mesure, on ne peut plus impérialiste, que l'on a pendant très très longtemps daté des années 440 et aujourd'hui il s'avère que bien plus tôt, c'est un texte des années 425. Vous voyez que la perspective change.
En pleine guerre, quoi.
La perspective change. Ouais. Désormais, l'impérialisme le plus rigoureux, il appartient à l'époque, disons, de la première phase de la guerre du Péloponnèse. C'est évidemment important. On peut s'étonner, alors. On peut s'étonner, évidemment, c'est aussi la conséquence de cette datation nouvelle. que Thucydide n'y ait pas fait allusion, puisque c'était quand même une mesure politique, impérialiste, de très grande envergure. Il y a là un silence, surprenant.
Comment est-ce qu'on l'explique?
C'est tout le problème de son information, qui le plus souvent est excellente. Mais vous savez que tout historien doit faire des choix. Ces choix peuvent, précisément dans certains cas rares, paraître un peu discutables. Parfois, les choix sont, si vous voulez, d'importance secondaire, mais on peut les observer. Récemment encore, a été trouvé dans les fouilles d'Athènes qui ont précédé la construction du fameux métropolitain, du métro d'Athènes, qui est une construction remarquable des temps modernes, qui a donné lieu à beaucoup de découvertes. On a découvert une très belle stèle surmontée d'un relief qui est la liste de soldats morts dans deux batailles de la guerre du Péloponnèse, clairement du début de la guerre du Péloponnèse. Le texte dit, voilà ceux qui sont morts à Pétanon, à Spartolos et à Tanagra. Que fait l'historien? Le texte est encore inédit, mais on en saura plus dans quelques temps. Spartolos, c'est effectivement une bataille que Thucydide a décrite, qui a été importante, encore une fois dans le nord de la Grèce, en 429, sauf erreur. Mais dans cette année, il n'y a pas de conflit à Tanagra, en Béotie. On ne sait pas ce qui s'est passé à Tanagra. Donc, voilà un cas tout à fait précis où, on peut prendre Thucydide sur, non pas le fait, il ne s'agit pas de délit, hein, mais il a dû faire un choix. Et dans son esprit, Spartolos, événement auquel il consacre plusieurs pages, était quelque chose de beaucoup plus important qu'un autre théâtre d'opération qu'il a passé, sous silence en l'occurrence.
Cela dit, il faut reconnaître que Nicias et Cléon ont quand même su rétablir la situation, au moins militaire, et que le livre 3 de Thucydide nous montre un certain nombre de faits inquiétants parce qu'il est question de la révolte, par exemple, de la cité de Mytilène à Lesbos. Donc il y a des révoltes dans l'Empire. Devant cette faiblesse d'Athènes touchée par la peste, indiscutablement, des velléités d'autonomie se font sentir. Il y a aussi cette initiative d'un autre stratège, Démosthène, qui va fortifier, qui étant un peu inoccupé, pour occuper ses troupes, fortifie sur la côte de Pylos, n'est-ce pas, fortifie un petit bastion.
Monique Trédé.
Et cette initiative, qui à l'origine, semble-t-il, n'est pas absolument pensée avec des projets stratégiques très important, va aboutir à ce que les Spartiates, souhaitant se débarrasser de cet escadron athénien qui les gêne sur leur côte, vont aller d'échec en échec, d'erreur en erreur, et que les Athéniens vont se trouver maîtres de troupes spartiates qui devaient attaquer Pylos, mais qui se sont fait prendre sur le petit îlot de Sphactérie. Et ceci va évidemment redonner à Athènes une flamme extraordinaire. Et dans le livre 4, nous voyons Athènes reprendre du poil de la bête. Et au moment où, aux yeux de Thucydide, c'eût été le moment pour faire une paix et conclure une paix honorable, les Athéniens pensent que tout leur va leur être permis, que c'est au contraire une occasion qu'il ne faut pas laisser passer, et une politique de guerre extrême va être conduite par Cléon, malgré les avertissements de gens plus sensés comme Nicias. Cléon arrivera même à se saisir des Spartiates qui sont immobilisés à Sphactérie, nous sommes maintenant au livre 4, et c'est là que Brasidas, voyant que la situation de Sparte devient très mauvaise, décide non plus de réagir aux attaques athéniennes, mais d'aller prendre l'initiative d'attaquer Athènes dans son empire. À la fin du livre 4, la campagne de Brasidas est très victorieuse et à nouveau on se trouve dans une situation où Athènes est menacée. Ce qui va arriver, c'est que dans une grande bataille autour d'Amphipolis, justement, où il n'y a plus Thucydide pour défendre Amphipolis, mais Cléon et Brasidas vont finalement périr l'un et l'autre dans cette bataille. Et dans les deux cités qui sont épuisées par 10 ans de guerre, les modérés vont prendre le dessus et nous allons avoir la paix qu'on appelle la paix de Nicias.
Alors, ça c'est très intéressant parce que, évidemment, c'est une paix qui passe pour une grande victoire de part et d'autre. Et seul Thucydide va comprendre que c'est une paix pour rien, un coup d'épée dans l'eau, en quelque sorte.
Si on lit les orateurs, ou si on lit même d'autres historiens, malheureusement, un grand nombre des continuateurs de Thucydide ou des historiens postérieurs à Thucydide, nous ne les connaissons que par fragments. Mais on voit que la vision des choses était qu'il y a eu 3 conflits. Il y aurait eu la guerre de 10 ans, 431-421, la campagne de Sicile, qui, elle, intervient en 415, donc vous voyez, après 6 ans de paix. Et puis, après la campagne de Sicile, ce qu'on a appelé la guerre de Décélie, c'est-à-dire que c'est Sparte qui a pris l'initiative de fortifier au nord de l'Attique un fort, une petite place, et qui régulièrement soumet l'Attique à des incursions tout à fait dommageables. Et cette guerre de Décélie se terminera par cette énorme défaite navale, qui est la défaite d'Aigospotamos, qui met fin à l'Empire d'Athènes et à la guerre du Péloponnèse, donc en 404. Bien. Or, Thucydide nous dit, mais en réalité, il n'y a eu qu'un conflit, un conflit qui a duré 30 ans. Car la paix qui a suivi la paix de 10 ans n'a été qu'une paix fourrée. Aucune des deux cités n'a rempli ses engagements. Athènes n'a pas rendu toutes ses possessions de l'Empire comme elle devait le faire. Sparte n'a pas non plus rendu les cités qu'il avait gagnées. Donc c'est une fausse paix. Et pour Thucydide, il n'y a eu qu'une seule guerre. Et ça aussi, c'est un coup de génie. Je veux dire, c'est une analyse entièrement due à une réflexion d'une force politique et intellectuelle qui nous sidère encore aujourd'hui.
Il y a chez Thucydide une cohérence, c'est vrai, qui est absolument remarquable. Il y a une rigueur dans l'exposé, notamment dans la recherche des causes. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est en cela, si vous voulez, que souvent on dit que Thucydide est quelque part...
Patrice Brun.
Comment dire, un historien un petit peu à la façon moderne, à savoir cette recherche des causes. Eh bien, il a défini l'histoire de la guerre du Péloponnèse, en 431-404, comme un tout. Or, quand on regarde les textes, notamment de Xénophon, enfin des textes de peu postérieurs, les Grecs voyaient deux événements, deux guerres différentes entre 431 et 421, les 10 premières années que l'on appelle soit alors la guerre archidamique du nom du roi de Sparte Archidamos, ou alors la guerre des 10 ans. Et puis entre 413 et 404, on l'appelle la guerre d'Ionie. Vous voyez, il y avait deux guerres bien différenciées durant cette période-là, et il n'est pas sûr que les Grecs à ce moment-là, dans la deuxième guerre dite d'Ionie, est vue en quelque sorte l'unité de la période. Parce que vous savez, en Grèce, les guerres, c'est permanent, presque. Donc si vous voulez, en quelque sorte, tailler une période de 27 ans, 431-404, c'est une forme de hardiesse intellectuelle pour le temps. Et encore une fois, la cohérence et la force d'analyse de Thucydide a fait que, très vite, la guerre du Péloponnèse, le terme « guerre du Péloponnèse » s'est peu à peu imposé. On va dire, à l'époque romaine, elle s'impose.
Est-ce que vous pensez, vous, qu'il n'y a pas eu une guerre du Péloponnèse ?
C'est assez difficile à dire.
Est-ce que vous pensez que la vision de Thucydide de faire une unité de ces deux morceaux de guerre séparés par une paix n'est pas tout à fait une idée juste?
Alors, je pense qu'elle est tout à fait juste en ce qui concerne Athènes. En 404 puis 403, Athènes a vraiment tourné une page.
Donc c'est la vision athénienne.
Ah ouais, c'est une vision athénienne. Par contre, je pense notamment à tout ce qui se passe en Asie mineure à partir des années 412-411, où on voit le roi de Perse entrer directement dans le jeu politique des différentes cités grecques. On peut considérer que la guerre du roi se termine 18 ans après, en 386, au moment de ce qu'on appelait la paix du roi. Donc vous voyez, 404, l'unité de la période correspond vraiment à une vision athénocentrique de l'histoire.
Μετά δε ταύτα θέρους μεσούντος, ήδη η αναγωγή εγίγνετο εις την Σικελίαν. Τον μεν ουν ξημάχων της πλήστης και της σταγωγής ολκάση και της πλοίης και όση άλλη Παρασκευή ξυνήπετο πρότερον, ήρητο εσκέρκυραν.
Il y a aussi un très beau passage, là aussi très actuel, enfin, très brûlant aujourd'hui.
Vous m'inquiétez.
De la manière dont les mots sont réutilisés en leur contraire.
C'est très juste,
Monique Trédé. Et ça, c'est très intéressant parce que, comme en effet les sophistes ont à y voir sa formation, l'a alerté et l'a mise à l'écoute, Thucydide voit très très bien comment on manipule la langue.
L'un des jeux et le plaisir quand on lit Thucydide, le plaisir de trouver telle parole avec tel sens noble chez Périclès, et la même parole dans la mise ensuite dans la bouche d'Alcibiade ou de Cléon avec des connotations beaucoup plus inquiétantes. Lorsque Périclès dit « Il faut être conscient que votre domination est un empire », c'est pour inciter les uns et les autres, certes, à défendre cet empire, mais à ne pas séparer cet empire de l'incarnation d'un certain nombre de valeurs. Bien. Lorsque Cléon dit « votre domination est un empire », eh bien, c'est pour ajouter, et donc, si vous laissez une révolte impunie, c'est fini, donc passons les hommes par les armes et vendons les femmes et les enfants en esclavage. Donc, le contexte est assez différent. Et lorsque Alcibiade reprend ce type de formule pour montrer que, puisque ce pouvoir athénien est un empire, par définition, un empire étant menacé doit réagir par une politique perpétuellement agressive et d'extension de l'empire. Là aussi, on tombe dans une espèce de cycle de la force qui ne s'arrête pas, qui semble-t-il, en tout cas dans les paroles que lui prête Thucydide, n'avait pas du tout été envisagé par Périclès. Donc, c'est intéressant de voir comme les slogans politiques et les mêmes termes peuvent être repris dans des contextes différents avec des connotations tout à fait différentes.
Et même opposées. Et c'est intéressant parce que là aussi, Thucydide fait l'autopsie du mot.
C'est tout à fait juste. Et alors, il y a ce fameux passage, je suppose que c'est là que vous vouliez m'amener, sur la guerre civile à Corcyre, qui est quelque chose d'extraordinaire, où Thucydide nous montre que le drame de la guerre du Péloponnèse a été que les deux régimes d'Athènes et de Sparte, étant des régimes politiques différents, n'est-ce pas, nous avions déjà un monde bipolaire, comme on n'a pas manqué de le remarquer au moment de la guerre froide, et que donc tout le monde grec, l'ensemble des cités grecques a été amené à soit prendre le parti d'Athènes, soit prendre le parti de Sparte. Et que tout conflit à l'intérieur des cités devenait partie prenante de ce conflit général. Et aggravait évidemment à l'intérieur des petites cités grecques les conflits. Et il y a eu comme exemple les troubles de la guerre civile de Corcyre, où on voit que les massacres entre les uns et les autres ont été évidemment absolument tragiques et horriblement douloureux. Et Thucydide s'arrête un instant pour analyser les troubles de la guerre civile et montre que, bien sûr, un conflit, une guerre civile dans une cité, cela trouble les rapports familiaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction de monde privé qui puisse échapper à ce type de conflit. Le père, le fils vont être ennemis, les frères sont les ennemis les uns des autres. Bon. Mais il montre aussi, et je reviens à cette question du langage que vous évoquiez tout à fait justement, que le sens même des mots change. Et que ce qui était courage passe pour naïveté, ce qui était réflexion passe pour duplicité, que les relations d'amitié deviennent des relations partisanes, et qu'ainsi le vocabulaire lui-même, le contenu des mots, est complètement modifié par la situation de conflit à l'intérieur de la cité. Et ça, c'est évidemment un texte qui a réjoui Hobbes, mais qui est un texte terrifiant, mais d'une perspicacité et d'une intelligence telle qu'on trouve malheureusement, très souvent, l'occasion d'y revenir. L'histoire contemporaine nous y renvoie trop régulièrement.
Ce livre 8 est aussi à certains égards à part, pour d'autres raisons.
Il est inachevé déjà.
Vous l'avez dit, il est inachevé, il s'interrompt de manière abrupte à l'automne de l'année 411. Donc nous n'avons pas la fin de la guerre du Péloponnèse. Il a commencé son travail sans connaître la fin de la guerre. Ça, certainement, il n'a pas attendu 404 pour se mettre à l'œuvre, parce qu'il aurait eu déjà une foule de choses qui auraient été difficiles de réunir. Non, il le dit expressément, dès que la guerre a commencé, j'ai senti que ce serait quelque chose de tout à fait important. J'ai commencé à réunir les informations, et on voit par le livre 5 qu'il a connu les effets catastrophiques de cette guerre pour Athènes, le démantèlement de la muraille, des longs murs et la soumission à Sparte. Donc ça, c'est important à savoir, parce qu'il est clair qu'on n'écrit pas l'histoire d'une guerre de la même façon si on connaît ou si on ne connaît pas l'issue. C'est capital. Mais bien qu'il ait dit qu'il avait écrit jusqu'à la fin, il avait dû prendre des notes, le fait est que ce livre 8 est le dernier et il s'achève bien prématurément pour nous à l'année 411. Apparemment, il n'a pas fait de livre neuf. Dans le détail, on ne sait pas. Et nous avons une autre raison de penser qu'il a été interrompu dans la mise au point. C'est que le livre 8, chose remarquable, ne comporte aucun discours. Vous savez que c'est une des particularités de l'œuvre de Thucydide que d'introduire ces discours qui sont peut-être pour nous une chose un peu surprenante, puisque il n'a pas pu les relever exactement, il les reconstruit. Bon. Mais c'était une chose qu'il faisait probablement dans une seconde phase de son travail d'élaboration, et dans le cas du livre 8, il n'a pas visiblement eu le temps d'exécuter ce projet. Donc ce livre 8 est particulier à cet égard, il l'est encore pour une autre raison, c'est que c'est un livre tumultueux, portant essentiellement sur l'année 411, qui voit à Athènes le renversement du régime démocratique, qui était fondamental, qui était lié justement à cet impérialisme de Périclès. Donc c'est un tournant, même si ce gouvernement oligarchique qui se met en place en 411 n'a pas duré très 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 longtemps. Dans le livre 8, Thucydide accorde une place très importante aux affaires internes d'Athènes, pas seulement les opérations militaires. C'était très fortement imbriqué. Et alors, précisément, le passage que j'aimerais mettre maintenant en évidence se situe tout à la fin de ce livre 8, à un moment tout à fait critique de l'histoire d'Athènes, au moment où ce régime oligarchique, qu'on appelle le régime des 400, qui est installé au printemps 411, qui ne va durer que quelques mois, se trouve vraiment aux abois. Il suscite évidemment l'opposition de beaucoup, et il ne peut tenir que s'il a l'appui de l'adversaire, puisque les oligarques proches idéologiquement de Sparte attendent en quelque sorte, c'est le paradoxe, le soutien de l'ennemi pour tenir. C'est une situation historique qui est connue par ailleurs. On a des exemples dans l'histoire moderne et contemporaine. Donc, nous sommes là au mois de juin 411. On voit apparaître devant Athènes, devant le Pirée, une flotte, une très importante flotte péloponnésienne. Et les oligarques mettent tout leur espoir dans l'arrivée de cette flotte qui leur permettra de rester au pouvoir, tandis que beaucoup d'Athéniens, au contraire, prennent les armes et veulent défendre leur cité contre cette flotte importante. Mais Thucydide note que cette flotte change apparemment, ou que l'amiral change apparemment d'avis, et il se dirige, il contourne toute l'Attique, la péninsule de l'Attique, et il se dirige vers l'île d'Eubée. Pourquoi l'île d'Eubée? C'est que l'île d'Eubée était, en 411, une des seules parties de l'Empire qui tenait encore. Et de l'Eubée, la longue île qui protège en quelque sorte toute la façade est de la péninsule, les Athéniens tiraient de grands profits, disons que c'était leur grenier, en quelque sorte. Et pour eux, tu sais, pour eux, à partir de 413, après l'affreuse expédition de Sicile, l'Eubée était tout pour eux, tout pour eux. Et c'est une phrase de Thucydide. Alors, on voit que donc les Spartiates ont compris cela de Langdinthe. Ils vont tâcher de détacher l'Eubée pour, en quelque sorte, affamer Athènes. Mmh. Les Athéniens comprennent cela, évidemment, ils sont lucides. Et malgré l'état catastrophique de leurs affaires, ils envoient en toute hâte une petite flotte qui va mouiller dans le port de la cité d'Érétrie, des principales cités de l'île de B, très proche du continent, à 10 km du continent, dans le port d'Oropos. C'est là, dans ce port d'Oropos, que mouille, au contraire, la flotte péloponnésienne. Les deux flottes sont face à face, 10 oui. km les séparent. Je voudrais pouvoir naturellement faire le récit de cette bataille maritime, la dernière narrée par Thucydide sur place, parce qu'on comprendrait beaucoup mieux les choses. Mais il faut essayer de l'évoquer ainsi. Donc les Athéniens sont arrivés à Érétrie en catastrophe. Ils essayent de se ravitailler dans cette ville qui leur appartient d'une certaine manière. Mais les gens d'Érétrie font des signes. 10 km séparent depuis l'Acropole, sans doute, à la flotte lacédémonienne, pour qu'elle vienne en toute hâte surprendre les Athéniens en plein préparatif. Et de fait, la bataille va se livrer.
Donc, ils trahissent.
Ils trahissent, mais à l'insu des Athéniens. Ils font un signe avec un bouclier lumineux et la flotte péloponnésienne qui est forte de plusieurs bâtiments alliés traverse en toute hâte, surprend les Athéniens en plein préparatif dans le port d'Érétrie. La bataille n'est pas très 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 longue. Les Athéniens ont très vite le dessous. Ils débarquent, ou en tout cas certains d'entre eux débarquent. Et parce qu'ils sont certains, dit Thucydide, qu'ils arrivent dans une cité amie, Eis Pauline Os Filiane. Ils arrivent dans une cité amie. En fait, ils sont extrêmement maltraités, ils sont tués, ils sont massacrés. Le mot de Thucydide est très fort, c'est un massacre. Alors, encore une fois, le récit de Thucydide est d'une parfaite limpidité.
Et d'une grande cruauté.
Il ne paraît à première vue ne poser aucun problème. Et de fait, les commentateurs sont peu attardés, étant donné qu'on a l'impression d'un récit qui est parfaitement clair. Mais à la réflexion, il y a un problème très sérieux qui se pose. Comment se fait-il que les Athéniens aient pu considérer ces gens d'Érétrie comme des amis ? Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur incroyable de la part de gens pourtant lucides? Les Athéniens ne sont pas les premiers venus et ils ont manifesté tout au long de ces années de guerre leur perspicacité. Parce que, en réalité, on le voit à travers Thucydide, depuis la défaite de la Sicile, ces gens d'Érétrie, ceux de l'Eubée en général, où il y a d'autres cités, sont décidés et font toutes sortes de démarches pour faire défection. Ils sont les premiers à envoyer des négociateurs auprès des gens de Sparte. Ils préparent la défection. Depuis 2 ans, ils préparent la défection. Comment se ferait-il que Thucydide, lui, en ait été informé et que les Athéniens, dans leur majorité, puissent se bercer de l'illusion qu'ils avaient là une cité alliée? Eh bien, il n'y a qu'une façon de l'expliquer, c'est que Thucydide a omis de nous dire quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de lui en faire grief. Tout s'explique, je crois, par le caractère inachevé de ce livre 8, où il aurait dû mettre la dernière main, préciser certaines choses. Si les Athéniens ont pu croire que la cité d'Érétrie était alliée, c'est que dans cette cité, comme dans d'autres cités, beaucoup d'autres cités, il y avait eu précédemment, quelques mois, semaines avant, un renversement de régime exactement semblable à celui d'Athènes, et d'ailleurs voulu, programmé par ces oligarques qu'on appelle les 400, qui établissait dans les cités un gouvernement oligarchique dans l'espoir que désormais ces cités cesseraient de comploter, puisque les principaux adversaires d'Athènes étaient des démocrates. Dès le moment où les oligarques seraient partout aussi au pouvoir...
Une union des oligarques.
Une union sacrée des oligarques.
Absolument.
Et c'est là, si vous voulez, la cause de la fatale erreur des Athéniens.
Ah ben, ils ont cru que...
Heureusement, je n'invente rien, parce que cette analyse, Thucydide l'a faite de façon extrêmement claire pour l'île de Thasos. Il a montré que cette idée qu'en changeant de régime, on obtiendrait la confiance des cités qui étaient en passe de faire défection, ça a été une illusion totale. Le problème, c'est que le lecteur, il ne fait pas du tout le rapprochement immédiat avec la situation à Thasos. Thucydide aurait dû expliquer, la preuve, c'est que jusqu'ici, personne n'a compris ce qui s'était passé à Érythrée. Il aurait dû expliquer que là aussi, il y avait eu un changement qui expliquait cette méprise fatale des Athéniens. Donc, encore une fois, ne jetons pas la pierre à Thucydide. C'est un cas où il a été malheureusement beaucoup trop peu explicite au point de tromper son lecteur. Le lecteur moderne n'a pas compris ce qui s'est passé à Érythrée, malgré la limpidité magnifique de ce récit de bataille qui est, à tout autre point de vue, parfait.
Patrice Brun.
Il faut quand même savoir que cette vision extraordinaire et hagiographique de l'Athènes du 5e siècle, et au travers surtout de Thucydide, est quand même, je dirais, le propre de l'historiographie française. Ça, si vous voulez, c'est tout à fait évident. Quand on lit les auteurs allemands, les historiens allemands ou les historiens anglo-saxons, on n'a pas du tout cette vision.
Ah bon, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est beaucoup plus critique. Enfin, je dirais, il y a un historien extraordinaire, si vous voulez, qui s'appelle George Cockwell, qui est un Oxfordien, un Oxonien, comme on dit maintenant, redoutable, qui a écrit des travaux qui ne démontent pas Thucydide, mais qui le replace dans un contexte, et qui replace surtout Athènes au 5e siècle dans son contexte. C'est-à-dire d'un contexte qui est très largement le fruit d'analyses postérieures. Regardez, je vais vous donner un exemple. Montons sur l'acropole d'Athènes maintenant. Qu'avons-nous? Mais nous avons, en quelque sorte, figé la situation de l'acropole au 5e siècle. On a gardé les propylées, le temple d'Athéna Niké, l'Érechtheion et bien entendu le Parthénon. Mais attendez, il n'y avait pas que ça. Il y avait au 4e siècle, il y a eu des constructions. Or, quand au 19e siècle, on a fait de l'acropole un musée en plein air, eh bien, ça a été un choix que, en quelque sorte, de ne remettre, de ne reconstituer, de ne reconstruire, de faire ce qu'on appelle des anastyloses, que pour les bâtiments du 5e siècle. En quelque sorte, on dit, ah oui, mais le 5e siècle sur l'acropole d'Athènes, c'est quelque chose. Oui, bien sûr, parce que c'était un choix des archéologues du 19e.
Ah, c'est très intéressant, en effet. Donc, vous pensez que nous autres Français avons tendance à lire la Grèce, avons un symptôme d'âge d'or d'une certaine façon, on pourrait presque dire.
Oui, on a tout à fait un symptôme de l'âge d'or, et notamment en ce qui concerne Athènes. Mais si vous voyez, c'est pas un hasard, parce que là aussi l'historiographie nous apprend beaucoup. Athènes est pour les historiens, on va dire à partir de Victor Duruy, hein, vous voyez, ça nous remonte donc au milieu du XIXe siècle.
Oui.
Athènes est en quelque sorte, et plus encore après la création de la Troisième République, Athènes représente la France. Athènes, c'est la France. Athènes contre Sparte, au Ve siècle, c'est Athènes contre l'Allemagne. Cet aspect militariste, vous voyez, Sparte, toujours en guerre, en état guerrier et tout, alors que Athènes, c'est les lettres, c'est la douceur de vie,
la civilisation,
l'état brut. Et au 4e siècle, les Spartiates sont remplacés par les Macédoniens, notamment par Philippe de Macédoine, où là, on a la même chose, un état militarisé, un prince, et Athènes, elle, toujours la voix, en quelque sorte, de la sagesse et de la civilisation. Simplement, au 4e siècle, on a Thucydide, et au 4e siècle, on a Démosthène. En quelque sorte, vous voyez, Thucydide au 5e siècle, Démosthène au 4e siècle, jouent d'une certaine manière, le même rôle dans la pensée universitaire. Oui, je dis surtout universitaire française de la Troisième République, dont nous avons encore un écho un peu affaibli, mais nous avons encore quelques échos.
Alors, vous nous invitez, si je comprends bien, Patrice Brun, à lire Thucydide de manière beaucoup plus vivante, et vous nous reprochez de le fixer quand on le lit au pied de la lettre.
Non, je ne me permettrai pas de faire des reproches. Non, en aucun cas. Simplement, je crois que tout texte historique, quelle que soit la qualité littéraire, comme on dit chez nous aussi, scientifique du travail, doit être lu comme un document. Et non pas dont il y a à faire la critique, et pas uniquement l'exégèse. Parce que si c'est pour faire l'exégèse, on a des textes sacrés pour ça. À moins de considérer que la guerre du Péloponnèse, l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide, est un livre à l'égard qui, d'une certaine manière, peut ressembler à la Bible, au Coran ou aux Évangiles, alors dans ces cas-là, on ne fait plus de critique. On fait de l'exégèse et on est très bien. Mais si on est historien, si on essaie de faire un peu comme Thucydide, en quelque sorte, de rechercher toujours ce qu'il y a derrière, eh bien, on doit lire, il est nécessaire de lire Thucydide, comme d'ailleurs tous les autres textes, d'une manière critique. Mais ça, si vous voulez, c'est pas une attitude de méfiance que l'on doit avoir vis-à-vis de Thucydide. C'est au contraire une attitude de respect vis-à-vis de l'œuvre. On ne respecte jamais autant qu'une œuvre quand on est capable de bien la critiquer.
Livre 8. Tissaphère ne comprit que c'était encore l'ouvrage des Péloponnésiens, comme déjà l'affaire de Milet et celle de Cnide. Là aussi, sa garnison avait été expulsée. Il estima que les accusations l'avaient vraiment compromis à leurs yeux, et il craignit qu'ils ne lui fissent encore du mal. En même temps, il souffrait à l'idée que Pharnabase, qui les avait avec lui depuis moins longtemps et à moindre frais, réussirait peut-être mieux que lui dans ses entreprises contre les Athéniens. C'est pourquoi il entendait se rendre auprès d'eux dans l'Hellespont, tant pour leur reprocher les événements d'Anthandros, que pour répondre avec le plus d'apparence possible aux accusations concernant aussi bien les navires phéniciens que les autres questions. Ainsi, il arriva d'abord à Éphèse, où il offrit un sacrifice à Artémis. Quand on en sera à la fin de l'hiver qui suit cet été, cela achève la 21e année.
Thucydide est complété par Xénophon qui commence par « après cela ». Donc indiscutablement, le récit de Xénophon se présente comme une suite à Thucydide. Après cela.
C'était Une vie, une œuvre, Thucydide, historien de la guerre du Péloponnèse, par Christine Goémé, avec Monique Trédé, Patrice Brun, Denis Knopfler, Charles Ratt. Texte lu par Nikos Grekos et Thibaut de Montalembert. Prise de son, Jean-Pierre Pernel. Francis Pascal, mixage Noélie Pellegrin, réalisation François Connac.